comme les transporteurs professionnels, assurez vos marchandises chez Suno Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Elles sont redoutées dans de nombreuses régions du monde et pourtant, les maladies tropicales négligées restent méconnues dans les zones où les conditions d'hygiène et le niveau de ressources mettent les populations à l'abri de ces parasites, de ces infections, de ces bactéries et des séquelles qu'ils entraînent sur le corps humain. Leurs noms sont souvent complexes, leishmaniose, filariose lymphatique, bilharziose, mais aussi la dengue, la rage, le trachome. 1,5 milliard de personnes concernées, près de 40% de ces personnes vivent en Afrique. Ces maladies de la pauvreté affectent, invalident et parfois défigurent, sans pour autant constituer des priorités de santé publique, ni en termes de recherche, ni en termes de prise en charge. Ces MTN, comme on les désigne aussi parfois, n'attirent que 0,6% des financements de la santé mondiale. Alors, si l'OMS se félicitait il y a un peu plus d'un an de succès remarquables dans la lutte contre ces pathologies, le constat est là. Alors que les chimiothérapies existent et que la prévention est essentielle, ces maladies transmissibles continuent de faire des ravages en profitant des plus sinistres complicités, la pauvreté, l'insalubrité et le désintérêt. Maladie tropicale négligée, une émission en partenariat avec le magazine Votre Santé. Et avec nous, en studio, professeur Christophe Rapp, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue, directeur du CMTE Centre de Santé Internationale à Paris et président de la Société Française de Médecine des Voyages. Comment l'Organisation Mondiale de la Santé aborde ce problème? Nous allons retrouver tout à l'heure en ligne la directrice du Bureau Régional pour l'Afrique de l'OMS, le docteur Machi Dizo Rebecca Moeti. Et quels médicaments sont disponibles? Comment traiter les populations atteintes? Nous poserons la question au docteur Bernard Pécoul, directeur du DNDi, initiative pour le développement de médicaments sur les maladies tropicales négligées. Maladies négligées qui concernent une cinquantaine de pays de la planète. Des dizaines de millions de personnes en portent les séquelles très invalidantes. C'est la filariose lymphatique. Nous allons en parler tout à l'heure avec le professeur Joseph Camnio, directeur du Centre de recherche sur les filarioses et autres maladies tropicales, enseignant d'épidémiologie à la faculté de médecine de Yaoundé, le professeur Camnio, que nous retrouverons en ligne du Cameroun.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Amadou Gallo Diop, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes neurologue, directeur scientifique de notre partenaire Votre Santé Magazine. Alors, vous allez nous proposer un supplément consacré aux maladies négligées. Pourquoi avoir choisi ce thème ?
Mais c'est un peu pour mettre en exergue un certain nombre de maladies qui ne sont pas médiatisées, donc qui sont politiquement négligées dans les programmes de santé. Et nous, on n'aime pas trop ce terme de maladies négligées. On veut montrer qu'il y a des malades négligés. Ils n'ont pas choisi ces maladies-là et qu'il faut les prendre en considération, essayer de les soigner quand le traitement existe.
Elles sont doublement pénalisées, hein, ces maladies et surtout ces patients, parce qu'on n'en parle pas assez et parce que pas assez d'argent pour la prise en charge.
Oui, parce que ça n'intéresse pas les grosses industries pharmaceutiques. C'est pas rentable, entre guillemets. Donc, il y a moins de recherches concernant les moyens thérapeutiques à créer. Donc, c'est non seulement stigmatisé parce que c'est rare, et puis c'est une grosse souffrance parce que il faut aller trouver des médicaments qui, on vous dit, bon, sont finis, n'existent plus.
Professeur Gallo Diop, s'il fallait citer une de ces maladies, vous parleriez de laquelle?
Écoutez, une d'entre elles qui dévisage les enfants, qui leur ronge toute la face et les montre de manière absolument affreuse à la population, le nomma pour ne pas la citer, est l'exemple type de ces maladies négligées qui vont être lourds en matière de traitement médical et chirurgical.
Merci beaucoup, professeur Amadou Gallo Diop. On va tout de suite retrouver avec nous les invités de Priorité Santé. Et précisément, professeur Christophe Rapp, on a cité ce nom du nomma. On va dire qu'il y a une liste officielle à une vingtaine de maladies tropicales négligées. Le nomma n'en fait pas partie, il y a d'autres pathologies. Qu'est-ce qui fait que telle ou telle maladie entre dans cette liste? C'est pas vraiment un classement dans cette liste.
Alors c'est une définition qui vient de l'OMS, et c'est ce concept de maladie négligée, de patient négligé, est bien sûr évolutif au cours du temps, et le fait de rentrer dans cette définition apporte surtout la possibilité d'augmenter les financements et la structuration de la prise en charge. Donc tout récemment, par exemple, on peut citer l'exemple des envenimations qui appartiennent maintenant aux maladies négligées, également la gale. Donc c'est quelque chose de dynamique.
Alors, maladie tropicale est pas mal, hein, on le constate dans cette liste, professeur Christophe Rapp, pas mal de maladies parasitaires.
Alors, c'est effectivement majoritairement des infections parasitaires, oui.
Avec des infections paralysantes pour certaines d'entre elles, invalidantes pour d'autres, et avec un certain nombre d'infections dormantes, c'est-à-dire que les patients ne se rendent pas tout de suite compte qu'ils sont infectés.
Alors en effet, notamment pour un certain nombre de pathologies parasitaires comme les géohelminthiases, hein, ce sont des enfants qui sont parasités dès leur plus jeune âge, comme la bilharziose effectivement, et les manifestations cliniques sont rares au départ et elles vont apparaître secondairement. En revanche, ils représentent un réservoir, hein, de l'infection qui va diffuser dans leur communauté.
Par exemple, par le biais des eaux, par le biais très souvent, parce que là aussi c'est un point commun qui entre dans la définition même de ces maladies, professeur Christophe Rapp, véritable carence sur l'assainissement des eaux.
Alors en effet, toutes les maladies transmises par l'eau contaminée posent la question de l'accès à l'assainissement et à l'eau dans le monde, et on sait aujourd'hui qu'il reste encore plus de 2,4 milliards d'individus qui n'ont pas accès aux toilettes et aux latrines, et plus de 700 millions d'individus qui n'ont pas accès à de l'eau potable dans le monde.
Alors plusieurs de ces maladies, on a parlé, on aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs, des séquelles sur le corps, mais plusieurs de ces maladies peuvent être carrément fatales.
Alors il y a parmi les maladies négligées des maladies fatales comme la trypanosomose ou maladie du sommeil, hein, liée à la piqûre de la mouche tsetse, la leishmaniose viscérale, hein, et puis également la maladie de Chagas, qui sont des maladies mortelles. Mais globalement, le nombre de décès des maladies tropicales négligées est aux alentours de 170 000 décès par an. La plus grande charge est quand même une morbidité, une endémicité chronique.
Avec donc énormément de personnes concernées sur la planète, plus d'un milliard, et véritablement cette dimension géographique, localisation par exemple pour la maladie du sommeil, la fameuse mouche tsetse, là ça parle aux gens quand on en discute. La République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est le grand bassin. En fonction de telle ou telle maladie, des zones sont plus ou moins touchées.
Bien entendu, là, c'est la dynamique des maladies infectieuses, hein, où l'environnement, hein, la situation écologique de la maladie est variable. Et donc, on a des épidémiologies en foyer comme la trypanosomose ou la mouche tsetse qui s'appelle la glossine, est inféodée à un biotope particulier. On a la même chose pour l'ulcère de Buruli, qui est une maladie environnementale qui sévit également en foyer.
Alors, pour ce qui est de l'efficacité de la riposte, hein, si on parle du continent africain, certaines maladies tropicales négligées ont considérablement reculé. Dans certains pays, professeur Rapp, justement, on peut parler d'avancées, peut-être pas forcément de succès, mais d'avancées dans quel pays ?
Alors, dans de nombreux pays d'Afrique, si on prend plutôt par maladie, l'onchocercose a reculé, la filariose lymphatique est en voie d'élimination dans certains pays, le ver de Guinée est quasiment éradiqué et la trypanosomose africaine a diminué son incidence par 10 grâce à une meilleure prise en charge et une meilleure prise en charge thérapeutique. Donc il y a de nombreux progrès, mais le combat n'est pas terminé, il y a encore beaucoup à faire.
C'est pour ça que l'année dernière, l'OMS avait parlé d'un succès, l'Organisation mondiale de la santé qui développe un programme, hein, directement lié à ces maladies. Il s'agit du programme spécial élargi pour l'élimination de ces pathologies, l'EPSEN. Et pour nous en parler, on retrouve le docteur Machidizo Rebecca Moeti. Bonjour docteur Moeti.
Bonjour madame.
Vous êtes directrice.
Bonjour professeur aussi.
Bonjour madame.
Vous êtes directrice du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Projet EPSEN, donc, dont on parle tout de suite dans Priorité Santé, avec un constat de départ, docteur Moeti. Les femmes et les enfants sont les premières victimes des maladies tropicales négligées.
Oui, je crois que comme a bien dit le professeur, c'est lié à l'eau. Et si nous regardons le rôle des femmes dans la famille, c'est eux très souvent, s'il y a des sources de l'eau contaminées, qui sont en contact avec l'eau. Donc, nous avons trouvé la cécité de rivière ou bien l'oncocercose et d'autres maladies et puis aussi le manque de l'eau potable, vraiment a un impact très très grave sur les enfants, surtout la parasitose intestinale.
Alors, le projet Ebsen, il cible 5 de ces maladies tropicales négligées les plus répandues. Vous pouvez justement nous parler de ce groupe de maladies. Pourquoi justement avoir ciblé ces 5 pathologies?
Oui, c'est parce que ce sont des pathologies qui sont qui peuvent être prévenues et traitées par les chimiothérapies préventives en distribution de masse de ces médicaments. Il y a aussi l'opportunité du fait que quelques firmes pharmaceutiques se sont engagées à faire des dons de ces maladies, de ces médicaments. Donc voilà ici, avec le don, avec un partenariat fort entre le partenaire de développement sanitaire et des programmes qui ont été établis, et notre projet l'espère de cibler ces maladies pour prendre l'opportunité des actions qui ont été commencées déjà sur le programme africain contre l'oncocécose. Donc nous avons pu élargir les maladies ciblées et commencer à travailler avec le programme national et le partenaire pour mettre en place programme de distribution de masse des médicaments.
Alors cette administration de masse des médicaments, docteur Moëti, elle passe bien sûr par le repérage des communautés à risque. Il faut savoir qui peut être traité et dans quel cas, eh bien, ce traitement sera le plus efficace, le plus pertinent.
Oui, nous faisons ce travail-là. Nous avons une volée de, comment on dit, des enquêtes. Que faire, bien qu'appuie notre projet ESPEN. Et nous avons pu faire un mapping de la situation dans plusieurs pays africains où nous savons où se trouvent les malades, où nous devons mettre en œuvre ce projet, cette campagne de distribution de masse. Et aussi là où il y a déjà le progrès des résultats, où les pays peuvent commencer à arrêter de faire cette campagne. Donc il y a tout un travail de mobilisation, sensibilisation de la communauté, les enquêtes pour cibler avec la campagne et aussi les enquêtes pour permettre à établir du fait que la maladie est bien en train d'être éliminée. Et enfin, là où cet effort peut être peut être arrêté et nous allons continuer à faire, bien sûr, la surveillance pour s'assurer qu'elle s'est bien éliminée.
Cartographie, enquête et suivi. Dernière question, docteur Moëti. Aujourd'hui, ce programme Ebsen, il concerne combien d'individus, combien de pays?
Je crois que nous estimons qu'il y a 600 millions des personnes en Afrique qui sont affectées par ces maladies, qui ont besoin de ces traitements. Et nous avons, travaillons avec le pays et aussi le bailleur de fonds, le partenaire technique, arrivé à traiter environ 400 millions de ces personnes. Donc ça veut dire qu'il y a un progrès remarquable. C'est vrai qu'il y a toujours beaucoup à faire dans les années suivantes, pour arriver à notre cible d'élimination vers l'année 2030.
Merci beaucoup, docteur Machidizo Rebecca Moëti, d'avoir répondu à Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes directrice du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Donc, on l'a entendu, ces 5 maladies ciblées, professeur Christophe Frappe, avec l'importance du plaidoyer, convaincre pourquoi est-ce qu'il faut traiter, pourquoi est-ce qu'il faut distribuer ces traitements à des niveaux très importants pour les populations. Et pour tout cela, eh bien, on comprend que la lutte contre ces maladies est éminemment politique.
Ah, bien entendu, c'est comme toutes les priorisations de santé, c'est éminemment politique et on a effectivement priorisé les grandes endémies, paludisme, tuberculose, VIH, mais il faut s'occuper de ces maladies négligées car un certain nombre d'études ont montré qu'elles étaient un obstacle au développement individuel et au développement socio-économique des pays. De nombreux travaux montrent que chaque dollar investi pour les maladies tropicales négligées permettront de générer 2,5 dollars et donc de progresser dans le bon sens.
Alors justement, on insiste sur ces modes de prise en charge qui fonctionnent, hein, des traitements qui existent, de la prévention aussi de terrain quand les moyens sont là qui peuvent fonctionner. Et pour en parler, on retrouve en ligne de Genève le docteur Bernard Pécoul. Bonjour docteur Pécoul.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'initiative pour le développement de médicaments sur les maladies tropicales négligées. Pour commencer, docteur Pécoul, est-ce que vous pouvez nous décrire les domaines d'intervention de votre organisation ?
Voilà, donc notre organisation a pour but de développer des nouveaux traitements pour les maladies négligées qui aujourd'hui soit ne bénéficient pas de traitement, soit ont des traitements qui sont inadaptés, trop toxiques, pour être mis en œuvre à grande échelle. Donc on est aujourd'hui concentré sur la maladie du sommeil, sur la leishmaniose, sur la maladie de Chagas. Nous essayons d'améliorer le traitement de l'oncosarcose. Et nous touchons aussi des maladies encore plus négligées comme le mycétome.
Alors, une date très importante pour cette prise en charge, c'est 2012, déclaration de Londres. Docteur Pécoul, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui sont les signataires et quelle a été la portée de cet engagement ?
Alors, la déclaration de Londres était un moment important parce que c'est un engagement des organisations internationales telles que l'OMS, des compagnies pharmaceutiques qui ont décidé de rejoindre cet effort, de la Fondation Gates, d'un certain nombre d'autres donneurs importants au niveau des gouvernements. Et nous étions présents parce que nous voulions absolument que le thème de la recherche soit inclus dans cette déclaration, parce qu'il est évident que les outils mis à disposition pour certaines maladies ne permettent pas un contrôle satisfaisant et de donner une réponse satisfaisante aux individus qui sont aujourd'hui touchés.
Alors on le comprend bien, ces maladies existent, il y a des grands programmes de diffusion pour certaines d'entre elles. D'après vous, docteur Bernard Pécoul, pour lesquelles de ces maladies tropicales négligées, les traitements sont-ils les plus efficaces ?
Alors il y a des traitements efficaces, je vais prendre l'exemple de la maladie sommeil, parce qu'aujourd'hui je crois qu'on est armé sur la maladie sommeil pour éliminer cette maladie, puisque on a amélioré le diagnostic. On partait de très très loin, puisqu'au début on utilisait l'arsenic comme traitement de base de cette maladie, donc avec une mortalité liée à la toxicité du produit. On a d'abord amélioré ce traitement avec une combinaison qui était beaucoup plus efficace, mais très difficile à utiliser parce que seulement en milieu hospitalier. Et aujourd'hui, récemment, avec Sanofi, avec l'appui de l'OMS, nous avons enregistré un produit qui est un traitement oral, le fexinidazole, qui peut être utilisé en périphérie pour une durée de 10 jours avec une prise par jour. Donc avec de tels outils, on peut espérer éliminer la maladie du sommeil.
La dimension chimique, bien évidemment aussi, la stratégie de prise en charge qui est essentielle, docteur Bernard Pécoul, justement, pour ce qui est de ces stratégies, au-delà de ces médicaments qui marchent, molécules efficaces, quels sont les modèles les plus pertinents ?
Bon, les modèles les plus pertinents, c'est des modèles qui puissent être mis en œuvre auprès de la communauté et par la communauté. Je pense que l'idée de l'innovation, c'est d'amener effectivement de nouveaux outils, mais c'est aussi l'innovation dans l'approche thérapeutique. Si je reste sur l'exemple précédent, la maladie du sommeil aujourd'hui évolue dans des zones extrêmement difficiles, des zones reculées, des zones avec d'instabilité, mais où souvent on arrive à traiter le paludisme. C'est souvent une des seules maladies qu'on arrive à traiter même en périphérie. Donc je voudrais qu'on associe ces efforts. Typiquement, on pourrait utiliser les efforts pour atteindre les gens atteints de paludisme. Et dans les zones que l'on connaît à risque de la maladie du sommeil, associer une approche pour la maladie du sommeil. C'est juste un exemple, mais c'est juste pour montrer qu'il faut s'approcher de la population, il faut rendre ces stratégies les plus proches et les mieux adaptées aux conditions dans lesquelles les gens vivent.
Collé à la communauté, dernière question, en matière de recherche, est-ce que vous diriez, docteur Bernard Pécoul, que les investissements ne sont particulièrement pas à la hauteur de l'enjeu sanitaire ?
Bien entendu, puisque en fait la recherche dans ce domaine-là a été longtemps abandonnée, donc on a essayé de la restimuler, de réintroduire ces priorités dans les agendas, remotiver le secteur public, les groupes académiques, mais aussi l'industrie pharmaceutique pour revenir à ces sujets. Mais il y a encore des besoins énormes. Et si je dois en citer quelques-uns aujourd'hui, on doit penser par exemple aux morsures de serpent qui bénéficient absolument pas de réponses satisfaisantes. Bon, j'ai mentionné le mycétome, c'est une maladie qui touche un grand nombre dans la zone subsahélienne, mais qui aujourd'hui ne bénéficie d'aucune réponse thérapeutique, sinon la chirurgie qui est extrêmement agressive.
Merci beaucoup, docteur Bernard Pécoulin, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes directeur de l'initiative pour le développement de médicaments sur les maladies tropicales négligées.
RFI.
Alors, une question tout de suite, docteur, professeur Christophe Rapp, parce que j'ai encore beaucoup à apprendre sur ce sujet. Le mycétome, c'est quoi exactement?
Alors, le mycétome, c'est une infection cutanée qui est liée en réalité à un champignon environnemental. Les gens vont se contaminer au contact du champignon qui est souvent au niveau de la terre ou des végétaux et développer des lésions extrêmement délabrantes et chroniques avec des infections de l'os qui sont effectivement responsables d'amputations, de prise en charge chirurgicale complexes. En Europe, dans les pays riches, on dispose d'antifongiques, de médicaments qui attaquent spécifiquement le champignon, mais qui sont des thérapeutiques complexes à manier et encore très très onéreuses.
Alors on parle prévention, on parle élimination. Est-ce qu'on voit aussi, quand on s'intéresse à ces maladies, professeur Rapp, c'est qu'un certain nombre de personnes sont concernées, sont affectées simultanément par plusieurs de ces maladies?
Alors oui, bien entendu, hein, vous pouvez avoir des jeunes enfants qui vont être à la fois porteurs de parasites intestinaux et développer également une bilharziose parce qu'ils vont se baigner dans un marigot et développer plus tard du sang dans les urines ou d'une maladie vésicale ou urinaire. Et donc, dans certaines régions rurales, on peut finalement avoir des individus qui ont 3 ou 4 maladies tropicales négligées. C'est tout à fait possible.
Alors, professeur Christophe Rapp, quand on part en voyage, on a des indications, ne vous baignez pas dans les eaux douces, etc., etc. Mais quand on vit là tous les jours, comment on fait quand on est une mère de famille, qui a les enfants qui sont en train de jouer dehors, tout à fait naturellement, hein, ils sont entre enfants. Qu'est-ce qu'on leur dit pour éviter qu'ils contractent ce genre de maladies qui peuvent, on l'a compris, être très graves?
Alors donc c'est effectivement les mesures d'hygiène et d'assainissement, mais sur ces maladies cibles comme la bilharziose là qui s'attrape par un contact dans l'eau, c'est la chimioprévention de masse qui est la bonne réponse en fait. Hein.
On va pas empêcher les enfants de jouer dehors.
Il faut avoir un objectif réaliste. Cette prévention, elle repose sur cette chimiothérapie séquentielle des enfants en bas âge dans les villages concernés.
Alors professeur Christophe Rapp, on va justement tout de suite donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé qui ont bien sûr des questions sur ces maladies tropicales négligées.
Priorité Santé sur RFI.
On vient d'en parler, on va en reparler avec vous, avec Parfait qui est au Gabon, à Mouila. Bonjour Parfait.
Bonjour madame.
On vous écoute, le professeur Christophe Rapp est à votre écoute, allez-y.
D'accord, je suis Parfait, j'appelle effectivement de Mouila, une ville du Gabon. Quand j'étais jeune, adolescent, on se lavait avec les autres enfants dans un lac, donc une eau stagnante, et quelques jours plus tard, lorsqu'on faisait miction, nos urines étaient rouges. Il y avait la présence du sang dans l'urine. Et les plus âgés disaient qu'il s'agissait là de la bilharziose. Donc, on n'avait pas le temps de consulter comme ça un médecin, donc l'insouciance du jeune âge. Alors, j'aimerais partager quelques questions avec vous. La présence d'urine dans le sang est vraiment la preuve qu'il s'agit ici de la bilharziose? Deuxième question, quels sont les autres symptômes de la bilharziose? Quel est l'agent vecteur de la bilharziose? Et dernière question, existe-t-il un traitement préventif pour celui qui souhaiterait passer un séjour en forêt, dans les lacs?
Parfait, moi j'ai une question à vous poser. Vous avez quel âge aujourd'hui?
Bon, aujourd'hui j'ai 39 ans.
Vous avez 39 ans, vous dites quand vous étiez petit, vous aviez eu des symptômes, mais... Une question, professeur Rapp, si Parfait avait contracté la bilharziose à l'époque, il aurait aujourd'hui des symptômes beaucoup plus graves? Non?
Alors pas
oui
forcément,
ou non
parce
pas forcément,
que
non,
parce que
cette
bilharziose, c'est une parasitose hein, qui effectivement c'est une maladie qui est liée à des vers hein, qui sont transmis lors d'un contact en eau douce avec une pénétration transcutanée de microfilaires qui vont ensuite se développer dans les plexus de la vessie ou du tube digestif. Et donc il y a deux phases. Il y a une phase où on va avoir une réaction allergique avec de la fièvre, des boutons qui correspondent à l'arrivée du parasite dans le corps. Et il y a la possibilité de développer du sang dans les urines, qui est la forme la plus classique, avec notamment certaines espèces de schistosomose. Et puis vous avez des formes chroniques qui vont toucher la vessie, la sphère génitale et le tube digestif, mais le passage à la chronicité, bien sûr, n'existe pas chez tous les patients.
Donc c'est pas systématique. Donc l'entrée, elle est cutanée, c'est par la
l'entrée, peau. L'entrée, elle est cutanée, oui. C'est quand vous baignez dans une eau douce ou un marigot. Et effectivement, il y a un gastéropode d'eau douce qui va héberger ce parasite qui est transmis par pénétration. Au niveau d'une effraction cutanée. Et ensuite, les larves
Mais le parasite, il est visible à l'œil nu ou c'est uniquement au microscope?
Au départ, il n'est pas visible à l'œil nu.
Donc, il n'y a pas de lésion. En fait, on sort de l'eau, on n'a pas de blessure, on n'a pas de... même pas forcément de démangeaison, c'est invisible.
Ouais, voilà, tout à fait, c'est ça. Ça peut rester asymptomatique. Certaines personnes, et notamment plutôt les voyageurs, les touristes, vont faire une fièvre associée à des manifestations d'allergie, avec parfois une éruption cutanée quelques semaines après le contact.
Est-ce que ça veut dire, professeur Rapp, que dans le meilleur des mondes, aussitôt après être allé dans l'eau, avoir eu par exemple du sang dans les urines, comme en témoignait à l'instant parfait, il faudrait prendre un traitement pour s'assurer que la maladie ne va pas se développer? Alors, pas forcément.
En fait, c'est assez compliqué. On peut être amené à prendre en charge des bilharzioses symptomatiques avec un traitement simple. C'est le même traitement, le praziquantel, la molécule qu'on utilise en chimiothérapie de masse, est également le traitement curatif. Et en Afrique, le problème, c'est qu'on connaît bien ce traitement préventif, mais on utilise beaucoup moins le traitement à visée curative. Et ça, on devrait beaucoup plus le mettre en place dans les structures de soins.
Voilà, parfait pour ces réponses du professeur Christophe Rapp. On vous souhaite une très bonne journée au Gabon. On va partir pour le Tchad, pour N'Djamena, où on retrouve Youssouf. Bonjour Youssouf.
Bonjour madame.
On vous écoute, allez-y.
Ma question, c'est de savoir si la bilharziose est une maladie qui peut se répercuter dans le temps. Et si une fois que... étant enfant dans les étangs, etc., contracté et soigné, n'est-ce pas, par un traitement curatif. Et à long terme, lorsqu'on prend un peu de l'âge, est-ce qu'il y a des conséquences?
Est-ce que vous, dans votre entourage, il y a des personnes qui ont eu des problèmes de santé, justement, par rapport à cela?
Oui, tout à fait, parce que dans mon enfance, j'ai des amis, des frères avec lesquels on jouait. Ils ont contracté la bilharziose et qu'ils ont été traités. Et en fin de compte, en ce moment, ils ont tout un tas de difficultés sur le plan du système urinaire.
Du système urinaire. Alors justement, professeur Rapp, c'est quoi le lien entre la bilharziose et les problèmes urinaires? Et est-ce que ça se traite surtout?
Alors ça se traite difficilement, effectivement, c'est les infestations multiples peuvent être responsables de formes chroniques qui vont se loger ou dans le tube digestif, ou dans le foie, la rate, ou le système génito-urinaire, et là on a des complications chroniques dont la gestion est chirurgicale et est assez complexe, et notamment quand même peu développée en Afrique.
Donc ça veut dire qu'il faudrait se faire opérer pour retirer quoi précisément?
Alors ça dépend un petit peu du type d'atteinte, hein, mais effectivement on peut être amené à faire une chirurgie pour retrouver une fonctionnalité rénale, etc. Ça peut donner une insuffisance rénale, ça peut donner des troubles chroniques qui sont quand même embêtants. C'est une des causes de stérilité également en Afrique, hein, bien entendu.
Voilà Youssouf pour cette réponse du professeur Rapp. On prend un autre auditeur, cette fois il est au Bénin. À Abomey, Abomey-Calavi, c'est Mathieu. Bonjour Mathieu.
Bonjour Caroline, bonjour à vous.
On vous écoute. Peut-être approchez-vous un petit peu plus de l'amplificateur de votre téléphone, parce que là, on n'entend pas très très bien. Hein. Allez-y.
Voilà. Je parlais surtout de l'ulcère de Burley, parce que compte tenu d'un certain nombre de déplacements dans les milieux, surtout peu assainis, où les gens ont des contacts réguliers avec des zones non traitées, on constate souvent que c'est dans ces milieux-là que l'ulcère de Burley sévit. Le problème qui se pose, c'est que la prise en charge, elle est encore totalement précaire, et alors que la maladie laisse des séquelles graves. Alors, je voulais savoir comment on peut faire pour éradiquer totalement cette maladie. Et puis, l'autre chose, quelle stratégie on peut développer pour que les séquelles que cette maladie laisse après le traitement qui n'est pas déjà adéquat puissent ne pas créer une stigmatisation à ceux qui en ont souffert.
Alors merci beaucoup Mathieu pour votre question. D'ailleurs il y a Idrissou qui est à Pointe-Noire au Congo-Brazza qui demande aussi quelles précautions faut-il prendre pour éviter l'ulcère de Buruli. Pour commencer déjà professeur Rapp, c'est quoi l'ulcère de Buruli?
Alors l'ulcère de Buruli c'est une infection cutanée qui est liée à une mycobactérie, à une bactérie cousin de la tuberculose ou de la lèpre. Et c'est une bactérie qui a pour particularité d'avoir une toxine, elle sécrète une toxine qui va nécroser la peau. Donc pour faire simple, c'est une bactérie mangeuse de peau. Ça va au départ après un contact environnemental, hein, c'est une punaise d'eau qui va inoculer la bactérie lors d'un contact sur un lac ou sur une baignade en eau douce. Et il va y avoir création d'un petit nodule cutané, hein, qui est une lésion qu'on peut palper, puis ultérieurement des ulcérations avec des tableaux extrêmement délabrants et des tableaux d'ostéite qui conduisent à des amputations et où il faudrait faire d'ailleurs des greffes cutanées, des choses très complexes qui sont difficiles à faire. Donc là, ça amène à exposer une stratégie qui est intéressante, qui est une stratégie de dépistage pilote, hein, où dans les villages du Bénin ou de Côte d'Ivoire, on va repérer les nodules chez les enfants en bas âge et exciser directement les nodules pour éviter le passage à l'ulcération et ces formes chroniques de bullerie qui sont difficiles à traiter. Ça correspond à des tableaux de brûlures, hein, qui justifient des soins très complexes.
Sur les membres inférieurs en général, on va dire sur en haut des pieds, sur les...
Alors majoritairement au niveau des membres inférieurs, mais ça peut toucher aussi les membres supérieurs. Il y a des formes même faciales, mais c'est majoritairement du fait de l'exposition les membres inférieurs.
Et les blessures, justement, quand on parle de nécrose, ce sont des blessures très invalidantes, épouvantables, on peut le dire, avec, on imagine aussi, compte tenu de cette nécrose, d'importantes souffrances, des douleurs très importantes.
Alors ça, c'est effectivement un tableau d'ulcérations chroniques. Alors c'est des ulcérations qui sont le plus souvent quand même indolores. Hein. Par contre, c'est la prise en charge thérapeutique qui va générer des douleurs très importantes, puisque ça s'assimile à la prise en charge des brûlés avec des greffes cutanées, toutes choses qui ne sont pas aisées à faire dans des centres de santé périphériques, bien sûr, en Afrique.
Voilà pour ces explications. Mathieu, on vous souhaite une très très bonne journée au Bénin. On poursuit notre échange justement avec, on l'a dit, hein, ces facteurs d'environnement, de niveau de vie, niveau social aussi, qui comptent dans cette infestation. Il y a aussi des contaminations croisées. Et justement, cette chimio-prévention, j'aimerais qu'on y revienne, professeur Christophe Rapp. D'abord, la chimio-prévention pour quelle maladie? Et puis, ça ressemble à quoi exactement le produit que l'on prend pour cette chimio-prévention?
Alors le concept de chimioprévention, c'est la distribution de masse à des sujets qui ont été effectivement screenés au départ par des études de prévalence de la maladie dans la région. Et donc sans aucun test de dépistage, sans aucun test de biologie, on va distribuer à une communauté des médicaments. Alors on peut distribuer contre... Donc les cinq maladies ciblées, c'est l'oncocercose, cécité des rivières, le trachome, hein, qui est une autre cause de cécité, ce sont les géohelminthioses, hein, un certain nombre de parasitoses intestinales, et puis également la schistosomose, la bilharziose. Donc on utilise pour le trachome, par exemple, un antibactérien qui s'appelle l'azithromycine. Et puis pour les autres maladies pyrositaires, la schistosomose, essentiellement le praziquintel. Et puis pour les géohelminthioses et l'oncocercose, etc., on va utiliser de plus en plus des associations de produits comme l'albendazole ou l'ivermectine, qui sont des antiparasitaires.
Tout ça,
on va donner de façon séquentielle.
Plusieurs comprimés régulièrement?
On va faire des cures de masse deux fois par an de ces médicaments, mais c'est en prise unique, hein, c'est un seul jour, distribution, deux fois par an pendant plusieurs années, et ça fait baisser le réservoir de la maladie, puisque les gens sont en fait déparasités, hein, si on veut faire de façon schématique, et donc le réservoir va se restreindre, et donc la maladie dit, va reculer.
Professeur Rapp, distribution en centre de santé ou à la maison?
Alors, toutes les stratégies existent. Ça peut être une distribution, bien sûr, communautaire de plus en plus. Hein, c'est ce qui est très efficace.
On imagine bien, oui. Alors, une de ces pathologies, hein, maintenant, on va faire une sorte de coup de projecteur sur cette maladie, c'est la filariose lymphatique, pathologie qui est au centre de votre activité. Professeur Joseph Camnio, bonjour.
Bonjour.
Professeur Camnio, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous enseignez l'épidémiologie à la faculté de médecine de Yaoundé. Vous êtes donc le directeur du centre de recherche sur les filarioses et autres maladies tropicales. Filariose, on l'appelle aussi éléphantiasis. Ce sont des parasites filaires. Professeur Camnio, à quoi ressemblent ces parasites?
Alors que le parasite, il y a la forme larvaire. Et puis la forme adulte, la forme larvaire, ce sont des microfilaires qui vivent dans le sang. et puis les formes adultes. Les microfilaires sont visibles à l'œil nu. On les voit au microscope lorsqu'on réalise l'examen d'une goutte de sang qu'on colore et qu'on regarde au microscope. Et puis les formes adultes peuvent se voir à l'échographie parce que les formes adultes vont vivre dans le réseau lymphatique. On peut les avoir au niveau du pli de l'aine, qui sont donc à l'origine de l'éléphantiasis. On peut les voir également dans le réseau lymphatique autour du sein, qui peut causer l'éléphantiasis du sein. Également, ça peut causer l'éléphantiasis des membres supérieurs.
Ça veut dire qu'ils se cachent en quelque sorte dans les ganglions?
Oui, ils vont se cacher dans les lymphatiques, dans le réseau lymphatique. Ils vont faire leur nid dans le réseau lymphatique. Et donc, soit au niveau du pli de l'aine, soit au niveau de l'aisselle pour causer l'éléphantiasis du membre supérieur, soit autour du sein pour causer l'éléphantiasis du sein.
Alors, pour ce qui est de la transmission, justement, professeur Camiot, si on veut parler prévention, il faut savoir comment cette infection s'attrape tout simplement. Comment décrire cette transmission?
Alors, la transmission se fait par les moustiques. Le vecteur de la filaria lymphatique, ça va être soit les anophèles, les mêmes vecteurs que pour le palud. Le culex également va transmettre la filaria lymphatique. Donc les moustiques vont piquer les personnes qui ont la filaria lymphatique, prélever les microfilaires. Ces microfilaires vont mûrir dans le moustique pour prendre la forme infectante. Et lors d'un repas sanguin, ces microfilaires vont injecter des larves infectantes de filarieuses lymphatiques. Et ces larves vont grandir pour devenir des filaires adultes qui vont donc aller dans le réseau lymphatique, se loger pour causer les lésions de la filaire lymphatique. Et puis les formes adultes, dans la forme adulte des microfilaires, des filaires, il y aura les mâles et les femelles qui vont s'accoupler. Les femelles vont émettre des microfilaires qui vont sortir des nids de la forme adulte pour retrouver le sang. Et lorsque les moustiques vont repiquer, vont pouvoir donc prélever ces microfilaires et transmettre ainsi de suite à d'autres personnes.
Le cercle de la contagion, est-ce qu'il y a un temps de latence, d'attente en quelque sorte, entre l'infection, la contamination et le développement des symptômes?
Oui, bien sûr. Lorsque une personne va recevoir la forme infectante de la filaria lymphatique, il y a un temps pour cette larve infectante de devenir un ver adulte pour pouvoir produire des microfilaires et pouvoir entretenir la transmission.
Et
les signes cliniques,
oui,
notamment les lymphœdèmes et le stade tardif, l'éléphantiasis, va être dû au blocage du réseau lymphatique qui fait que la lymphe, par exemple, du membre inférieur, ne va plus repartir, circuler dans l'ensemble du corps, va être bloqué dans le membre inférieur et ainsi commencer par causer des lymphangites et pour finir par l'éléphantiasis. Donc, il faut que la larve infectante qui est injectée par le moustique grandisse, devienne la filaire adulte, se loge dans la lymphatique, crée ce blocage au niveau de lymphatique pour engendrer cette éléphantiasis. Donc il y a du temps entre la réception de la larve infectante et le développement des signes cliniques de la maladie.
Des signes cliniques, donc éléphantiasis, gonflement, voire parfois des édèmes absolument énormes sur certaines parties du corps, avec forcément un impact en termes de vie quotidienne, un très fort impact, professeur Camiot, social. Professeur Camiot, vous êtes toujours avec nous? On vous a perdu. On essaye de vous retrouver parce qu'on ne l'a jamais l'affaire dans Priorité Santé. Professeur Christophe Rapp, tout à l'heure, on a entendu les mêmes parasites, ces satanés moustiques qui piquent, qui transmettent aussi bien le paludisme que cette maladie, la filariose. Justement, quand on lutte contre le paludisme, les programmes de prévention avec beaucoup de moyens, on le sait, qui sont engagés contre cette maladie parasitaire, est-ce que cette lutte contre le paludisme a une incidence sur la fréquence de certaines des maladies tropicales négligées, justement la filariose lymphatique?
Alors ça peut jouer, mais globalement... Le paludisme a une distribution beaucoup plus large, saisonnière. L'endémicité des maladies tropicales négligées est plus complexe. Si on prend par exemple l'exemple de l'oncocercose qui est liée à une piqûre de moucheron, la simulie là, qui va donner la cécité des rivières, c'est une mouche elle qui va se développer dans des cours d'eau rapides, etc. Et on essaie de distribuer des larvicides pour lutter contre cette maladie, mais c'est quand même assez complexe. Donc oui, bien sûr, une stratégie intégrée qui va prendre en compte un certain nombre de facteurs est quelque chose d'important, mais en termes de réalisation, c'est quand même quelque chose de difficile à mettre en place en dehors des milieux urbains.
On a bien fait d'insister, hein, professeur Joseph Camion, on vous retrouve en ligne de Yaoundé. On parlait tout à l'heure de l'impact et des conséquences sociales d'une maladie, justement comme la filariose lymphatique. Ce n'est pas le cas uniquement de cette maladie. Tout à l'heure, on parlait de l'ulcère de Buruli, des maladies qui peuvent aussi défigurer, vraiment léser la peau, avec à la clé une forte stigmatisation des personnes concernées. Est-ce que vous pouvez nous parler des croyances locales qui entourent pour ces maladies, parce que pour certains, eh bien, au-delà justement de l'agent infectieux, de l'agent pathogène, eh bien, il y a d'autres choses qui se jouent, notamment en Afrique. On attribue, on associe ces maladies à beaucoup de croyances.
Oui, dans les communautés où on observe ces lésions importantes liées aux maladies tropicales négligées, il y a des croyances. Il y en a qui pensent que ce sont des mauvais esprits. Il y en a qui pensent que c'est parce que l'on a beaucoup pêché ou que c'est le voisin qui a lancé la maladie. Donc il y a énormément de croyances autour de ces maladies et qui rendent difficile la lutte contre ces maladies parce que lorsqu'on n'a pas compris que c'est un parasite qui est à l'origine de cette défiguration, de ces lésions monstrueuses et qu'en détruisant le parasite, on peut contribuer à faire reculer ces lésions dans la communauté, il devient difficile à distribuer ces médicaments au sein des communautés. Mais grâce à des campagnes d'information, aux ONG qui sont dans les communautés qui véhiculent le message de ces parasites, de la transmission et la preuve, le succès de la chimiothérapie préventive qu'on a observé dans les communautés endémiques, ça encourage les populations à se faire soigner et à comprendre l'intérêt de participer à ces campagnes de chimiothérapie préventive.
Professeur Joseph Camion, justement, du côté des messages de santé publique, si des auditeurs qui sont à l'écoute nous entendent en ce moment, bien leur dire, quand ils ont un traitement, de le continuer, parce que sinon, il peut y avoir un risque de nouvelle contamination.
Il peut y avoir un risque de nouvelle contamination, mais surtout ce que nous disons dans les communautés endémiques, c'est que tout le monde doit prendre le médicament. Comme nous l'avons suivi avec le directeur régional de l'OMS tout à l'heure, avant la distribution de médicaments, il y a la cartographie. Donc on sait où ces maladies sont endémiques et on ne distribue les médicaments que dans les foyers où ces maladies sont endémiques. Et donc tout le monde dans ces communautés doit prendre le traitement. Parce que vous avez compris, ces maladies sont transmises par le vecteur. Si la moitié de la population prend bien le médicament, il y a une moitié qui ne prend pas le médicament, cette moitié va entretenir la transmission parce qu'il y aura toujours le réservoir, il y aura toujours des personnes dans la communauté qui auront l'oncocercose, qui auront la filaire lymphatique ou d'autres parasitoses, et le vecteur va reprélever pour redistribuer à toute la population. Donc on va tourner en rond, on va traiter une petite partie de la population et la transmission va continuer au sein de la population. Donc le message clé, c'est que tout le monde dans ces communautés prenne ce médicament qui se prend une seule fois par an. Et on a avalé 2 ou 3 comprimés, une fois par an, on va contribuer à éliminer ces maladies de nos communautés et des zones endémiques.
On se protège soi-même et on protège également tous ceux, toutes celles qui nous sont chères. C'est très important. Merci beaucoup pour votre éclairage, professeur Joseph Camion, d'avoir été en ligne de Yaoundé, où vous êtes directeur du centre de recherche sur les filarioses et autres maladies tropicales.
RFI à Yaoundé. 105.5 FM.
Professeur Christophe Rapp, on aborde la dernière partie de cet échange. Vous êtes infectiologue, mais on a bien compris aussi la dimension sociale et même psychologique, hein, parce que quand on est tellement abîmé, quand on souffre dans sa chair et dans son image, il y a une dimension aussi de prise en charge de ce côté-là. On a entendu chimiothérapie préventive, on a compris qu'il y avait des vraies campagnes qui étaient lancées pour essayer de lutter contre certaines de ces maladies, mais il y a tout ce fardeau psychologique. Comment alléger la charge pour les populations?
Alors, c'est un des volets très intéressants des maladies tropicales négligées, c'est effectivement la prise en charge des séquelles à la fois cognitives chez les enfants en bas âge, des séquelles invalidantes à type de handicap, avec de la réhabilitation qui est à la fois physique et de la kinésithérapie, mais qui est aussi une réadaptation sociale, puisque dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Bénin, sur l'ulcère de Buruli par exemple, il y a un taux de non-scolarisation très important, il y a des gens qui n'ont pas de travail, et donc il y a tout un système à organiser pour resocialiser les gens qui ont fait l'objet de stigmatisation, de discrimination. C'est un travail considérable.
Quand on essaie de lutter contre des infections à grande échelle, on pense bien sûr à l'arme numéro un, le vaccin. Qu'est-ce qu'il en est, professeur Christophe Rapp, pour ces maladies tropicales négligées ?
Alors l'exemple le plus récent de progrès dans les maladies tropicales négligées, c'est le virus de la dengue qui fait partie de maladies qui sévit sur beaucoup de continents et qui est vraiment une maladie réémergente au sens géographique du terme, qui existe également en Afrique, un peu sous-estimée, qui donne une fièvre qui ressemble au paludisme et qui est liée au fameux moustique-tigre, l'Aedes. Là, il y a un vaccin qui dispose maintenant d'une autorisation de mise sur le marché qui a été utilisée dans certains pays. C'est un des grands espoirs de pouvoir faire baisser l'incidence de ce type de pathologie. Pour les autres maladies tropicales négligées, les avancées vaccinales sont moins importantes actuellement.
Il y a de la recherche quand même ?
Alors, bien sûr, il y a de la recherche importante quand même, notamment sur la maladie de Buruli. On s'intéresse à un vaccin cousin du BCG, etc. Il y a une recherche qui est active, mais c'est plus compliqué. Et puis, il faut trouver le modèle économique qui va permettre de mettre en place à large échelle le vaccin.
Alors, on l'a dit tout à l'heure en vous présentant, vous présidez la Société française de médecine des voyages. Est-ce que, d'après vous, les voyageurs, certains touristes notamment, quand ils partent, on va dire, du nord ou de l'ouest vers le sud, ils vont dans certaines régions, ils s'éloignent un petit peu des circuits organisés. Est-ce qu'ils sont vraiment informés sur ces maladies tropicales négligées ou est-ce qu'ils arrivent vraiment comme des naïfs en terrain inconnu ?
Alors c'est une bonne question. On sait qu'en France, les voyageurs finalement consultent peu dans des centres spécialisés. Et là, je prends ma casquette de président de la Société française de médecine des voyages. J'invite les voyageurs à
venir. Parce que quand on a entendu l'émission, on a envie de faire attention.
Les touristes sont surtout concernés par la bilharziose, qui est fréquente chez les touristes, beaucoup plus rarement par des maladies de la pauvreté. C'est plutôt la bilharziose. Après, ce sont les expatriés humanitaires ou militaires qui peuvent être concernés par certaines de ces pathologies. Mais à l'exception de la bilharziose, c'est quand même pas des pathologies du touriste. Mais néanmoins, la trypanosomose touche chaque année quelques touristes. Et il y a des décès dans le monde parce qu'elle est complètement méconnue chez les gens notamment qui vont en Ouganda ou en Tanzanie dans les faire des safaris.
Donc c'est toujours la mouche tsetse.
C'est la mouche tsetse. Donc là, ça mérite une discussion avec un médecin spécialiste avant de partir puisque c'est une lutte antivectorielle avec des vêtements couvrants, moustiquaires, etc. qui sont des moyens simples de prévention mais qui sont effectivement méconnus.
Est-ce qu'il vaut aussi pour, on va dire, la deuxième, troisième génération qui rentre pendant les vacances au pays, qui retourne au village et là qui peut être aussi exposé à un certain nombre de contaminations ?
Parfaitement, oui.
Donc il faut faire attention quand on rentre en vacances pour éviter les très, très mauvais souvenirs au retour. Professeur Christophe Rapp, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur du CMTE à Paris, Centre de Santé International. Et cette émission a été préparée en partenariat avec le magazine Votre Santé. Priorité santé qui touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est tout Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Lundi, un reportage signé Igor Strauss au Portugal. Nous parlerons de la politique de réduction des risques pour les usagers de drogue. On se retrouve lundi.
Et priorité santé avec Suno Assurance. Comme les transporteurs professionnels, profitez d'une assurance dans plus de 14 pays pour l'acheminement de vos marchandises. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.